Amélie Méloman.
Là, il faut me donner le maximum.
L'émission de musique classique de Divergence FM.
Vous commencez beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Voilà.
Un orchestre est un monde. Un monde où chaque personne vient avec son propre instrument, son propre talent, pour jouer ensemble le temps d'un concert avec, pour seul idéal, de trouver l'unisson, d'en exprimer la mesure, d'atteindre l'harmonie. Seulement le temps d'un concert.
Plus rien.
Chers auditeurs, bonjour. Alors aujourd'hui, si j'ose dire, Divergence FM reçoit Radio France. On va oser dire ça pour le festival régulier qui est depuis 35 ans, le festival Radio France. Aujourd'hui, Radio France Occitanie. Bonjour Jean-Pierre Rousseau.
Bonjour.
Vous êtes directeur du festival, donc c'est vous qui organisez tout ça. Vous vous occupez aussi plus précisément de la programmation de musique classique. Alors, ce 35e festival, qu'est-ce qu'il a de particulier pour vous ?
D'abord, il prend une direction qui est peut-être inattendue pour nos contrées méditerranéennes. On prend la direction du Nord, des musiques du Nord, les pays un peu froids, lointains, tous les pays riverains de la Baltique. Parce que, comme disait un chanteur qu'on connaît bien, ce qu'ils n'ont pas au ciel, c'est-à-dire l'hiver dure très longtemps, vous savez, dans ces pays-là, ils l'ont dans le cœur. Donc le soleil, on a voulu illustrer ce soleil des pays scandinaves, baltes, enfin tous ces pays riverains de la Baltique, parce qu'il y a des musiques absolument extraordinaires, des musiques d'aujourd'hui, des musiques d'hier, et puis surtout des interprètes absolument fabuleux. Puis moi, ce sont des musiques qui me parlent. Donc... j'ai souhaité cette année qu'on fasse une croisière sur la mer Baltique.
Voilà, une belle croisière qui s'annonce avec des œuvres connues. Bon, bien sûr, on va découvrir des compositeurs, on va entendre du côté classique des compositeurs comme Sibelius. Difficile de l'éviter. Mais aussi, moi, ce qui me séduit beaucoup dans cette programmation que j'ai épluchée, si je puis dire, des compositeurs moins connus, comme Édouard Tubin, qu'on connaît très peu, qui a pourtant une œuvre importante. D'autres, des contemporains, des Tavara et quelques autres.
C'est le propos du festival depuis sa fondation. Le festival Radio France Occitanie Montpellier, puisque c'est son titre aujourd'hui, c'est le festival de la découverte. Ça l'est depuis sa fondation en 1985. C'est-à-dire qu'on découvre des interprètes, des jeunes talents qui deviennent grands, qui sont d'ailleurs déjà très grands quand ils viennent jouer ici. Des œuvres, des répertoires, des compositeurs, des pays. Et c'est vrai que ce nord de l'Europe, il est assez mal connu. On connaît, oui, Sibelius, deux, trois compositeurs comme ça. Mais ce qui fait la substance de la richesse de ces contrées est très mal connu. Et donc, on a profité pour faire reconnaître. Et je pense que c'est ce que le public du festival attend. Il n'attend pas de retrouver tout le temps les mêmes œuvres, tout le temps les mêmes symphonies. Donc là, on a cette chance d'avoir des compositeurs, Tubin, Rotavara, Peteris Vasks, Arvo Pärt, qui est peut-être un peu connu.
Qui est un peu plus
voilà,
connu.
Un très beau mélange. Et malheureusement, pas tout ce que j'aurais voulu qu'on programme. C'est toujours la même chose. On est toujours frustré à la fin d'un festival. On se dit, on aurait dû faire ceci, cela, etc. Enfin là, c'est déjà pas mal. Je crois qu'on a une belle variété à offrir au public.
Oui, puis dire que vous vous êtes pas cantonné à la musique contemporaine ou à celle du 19e siècle, qui sont celles qui ont le plus fort taux d'audience, on va dire comme ça. Mais vous êtes allé chercher un peu plus loin. Il y a Joseph Martin Krauss, notamment, qui va être... qu'on va pouvoir découvrir.
Le Mozart suédois.
Le Mozart suédois, voilà.
Il est exactement contemporain de Mozart. Il est né la même année, il est mort un an après. Et la différence de Mozart, il a quitté l'Allemagne assez vite. Il est allé s'installer en Suède. Il est devenu le roi musical de Suède. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Et il y a une petite anecdote qu'on peut dire. Krauss, en fait, on le connaissait à Paris, mais pas sous son nom. C'est-à-dire que, comme il n'était pas assez connu, les organisateurs de concerts parisiens au XVIIIe siècle, c'était comme ça, prenaient un autre nom. Alors, en l'occurrence, l'autre nom, c'est Haydn, qui était très connu à Paris. Donc on a joué des œuvres de Krauss sous le nom de Haydn parce que Haydn était plus vendeur. Comme quoi le marketing finalement...
C'est pas si nouveau que
ça. C'est pas si récent que ça.
Alors on entend voilà, cette politique de découverte. Alors découverte y compris pour des compositeurs connus, parce que là on évoque la musique du Nord, mais on est aussi, vous auriez pu faire une programmation, on est en 2019, donc centrée... au choix ou sur Berlioz pour le 150e de sa mort, ou sur Offenbach pour le bicentenaire de sa naissance. Ils ne seront pas absents, mais vous ne les avez pas mis en vedette. Pourquoi vous avez, que, pour pas céder un effet de mode ou pour oui, garder oui. Un rôle de défricheur?
Pardon de le dire comme ça, mais je trouve que le fait de se raccrocher en permanence à des anniversaires, c'est l'imagination la plus pauvre qui soit. N'importe qui peut programmer en disant « Tiens, je vais faire tout Berlioz, je vais faire tout Offenbach ». Enfin, ça serait difficile d'ailleurs de faire tout Offenbach. Ce n'est pas du tout le propos. Le propos, c'est de faire entendre, oui, de ne pas passer à côté d'un événement de ce type. Et j'en ai personnellement, je ne trouve pas ça vraiment intéressant. D'être tout le temps en train de se raccrocher à l'anniversaire, à la journée d'eux, etc. On passe son temps à commémorer. Il n'y a pas un jour sans qu'on commémore quelque chose, quelqu'un, un événement. Et finalement, on oublie de regarder un peu autour de soi, de regarder le répertoire. Là, en l'occurrence, Berlioz est honoré. Mais encore une fois, est-ce qu'il faut honorer là aussi la mort de quelqu'un? On l'a beaucoup fait pour le bicentenaire de sa naissance en 2003. Bon, très bien. Là, on va avoir la chance d'avoir Hervé Niquet le 17 juillet qui presque ressuscite la messe solennelle de Berlioz.
C'est une œuvre de jeunesse.
Ah ben, c'est non seulement une œuvre de jeunesse, c'est sa première œuvre. Il avait 20 ans. Il n'avait même pas encore fait le Conservatoire de Paris. Et dans cette œuvre, il y a déjà tout ce qui va suivre après. Et puis Offenbach, tout le monde fait du Offenbach. Et c'est très bien parce qu'Offenbach, on n'a jamais fini de le découvrir. Et il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages à découvrir. Et là, c'est un clin d'œil parce qu'on donnera une de ses petites œuvres, de ses opéras presque de poche, très drôle, qui s'appelle Pomme d'Api, avec le spécialiste d'Offenbach, qui est Jean-Christophe Keck, qui est déjà venu nous offrir d'autres Offenbach dans les années passées.
Alors, ce qui marque aussi le festival, bon, il y a toujours des œuvres méconnues. Il y aura aussi un opéra de Vincent d'Indy qui n'est pas sorti du purgatoire, si je puis dire, encore, vraiment.
Il n'est pas sorti du... Alors, Vincent d'Indy, c'est intéressant parce que, d'abord, il a des liens avec Montpellier, avec la région. Il a une partie de sa famille, de ses descendants qui habitent ici. Et il a surtout un rapport avec Vincent Biulès qui va être... exposé au Musée Fabre. Mais ce n'est pas tellement ça la raison de la programmation de cet opéra Ferval. C'est que c'est devenu un opéra un peu mythique parce que infaisable. Alors infaisable pourquoi? Parce que ça demande des chanteurs hors normes et donc aucune maison d'opéra s'engage là-dedans parce que c'est beaucoup trop compliqué et qu'ils pensent ne pas avoir les chanteurs qui ont les reins assez solides pour faire plusieurs représentations de suite. Donc nous, ce sera une version de concert avec le ténor du moment, qui est Michael Spiles, qui a chanté Berlioz, qui a chanté sur toutes les scènes, et qui dit lui-même, quand on l'a invité et qu'il a accepté de relever le défi, c'est comme si je chantais deux fois Siegfried de Wagner, dans la même soirée. Donc vous voyez à peu près, c'est une performance. Mais c'est surtout un très bel ouvrage, et Michael Schoenwandt, qui a voulu aussi le diriger, a réuni une très belle distribution et je crois que le 24 juillet, en effet, ce sera un des événements du festival, sinon un événement lyrique mondial, parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont pris leur billet de loin pour venir écouter cette œuvre qu'on n'entend jamais nulle part et qui donnera lieu, j'espère, à un disque.
Des découvertes d'œuvres, mais des découvertes d'artistes aussi. Il y a toujours une programmation régulière, alors vous l'avez appelée découverte, hein, tout simplement. De jeunes artistes. Alors comment ça se construit? Comment vous les... Ils viennent à vous, vous allez les chercher, vous avez une équipe qui les... Vous suivez l'actualité, comment ça se passe pour... Ouais, il y en a, on va pouvoir découvrir plein d'artistes.
On a une équipe de détectives qui
vous
courent.
Une
monde,
équipe
là.
De détectives.
Ouais, non. Mais oui, ça se fait, tout ça se fait naturellement. C'est les agents, les artistes eux-mêmes, nous, Corinne Delafont, qui est pour beaucoup dans la programmation du festival, des gens qu'on repère, l'actualité. Je pense par exemple à celui qui ouvre un peu le bal le 11 juillet, qui est Théo Fouchéneret, qui est un pianiste français qui vient de se distinguer parce qu'il est un des premiers, pas le seul, il y a déjà eu un autre avant lui, mais ils sont quand même très rares, à s'être distingué au concours de Genève, qui est un des concours les plus difficiles, un des concours internationaux les plus difficiles et les plus prestigieux. Si je vous cite Benedetti, Michelangeli, Martha Argerich, tous ces gens-là sont sortis du concours de Genève. Donc vous voyez à peu près le niveau. Et là, tout d'un coup, un petit Français qui gagne le concours, bah, on lui dit tout de suite, il faut venir. Même si parfois, ce n'est pas leur vrai début. Mais je pense à Marie-Ange Ngoussi. Alors, on dit, ça s'écrit Ngoussi. Et en fait, elle nous a dit l'autre jour que ça se prononçait Gucci, comme le couturier italien. Marie-Ange, elle a 21 ans. Et c'est même plus une découverte. Elle est déjà en train d'exploser le nombre de concerts qu'elle fait dans le monde entier. Là, elle en fait 3 ou 4 dans le cadre du festival, à Montpellier et dans d'autres lieux. Parce que c'est aussi ça auquel je tiens.
C'est oui, que, ça, je voulais qu'on y vienne aussi, justement, sur cette volonté de délocalisation.
C'est pas de délocalisation, c'est que pourquoi est-ce qu'on réserverait les beaux concerts, les découvertes, simplement à un public de Montpellier qui a le droit d'être choyé, et c'est le cas depuis 35 ans, mais pourquoi pas les autres, c'est-à-dire d'autres publics qui ont moins d'occasion, parfois pas du tout dans l'année, d'entendre de la musique. Et ça, c'est une donnée essentielle du festival, c'est de porter la musique partout où elle peut aller, partout où elle est attendue, elle est espérée. Et donc, la plupart des artistes qu'on invite ne viennent pas faire un seul récital à Montpellier. Ils se répandent dans toute la région Occitanie. Et pour le plus grand bien du public de la région et du public du festival.
Et puis je dirais, alors je ne sais pas comment la programmation de chacun des concerts de ces jeunes artistes est pensée, mais on a un mélange entre les œuvres connues. Je le programme par exemple de donc Marie-Ange Gucci.
Alors Gucci.
Gucci, pardon. bon, Krasliariana de Schumann, on est dans du classique, oui. Classique, mais aussi du piano de Saint-Saëns, qui est beaucoup moins connu, et puis du contemporain, avec Mantovani, voilà. Donc il y a des choses, des repères familiers pour le public, et puis des choses inhabituelles.
C'est la marque Montpellier, c'est la marque Festival, c'est la marque du Radio France, c'est-à-dire que on n'achète pas un récital passe-partout que ces artistes, et tous s'y sont pliés, Fazil Say à ses débuts, tous jouent le jeu de proposer aussi leur propre découverte. Parce que ce n'est pas toujours nous qui imposons, qui proposons, c'est parfois eux qui disent « Écoutez, puisque je vais jouer à Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France, je sais que vous aimez la découverte, alors moi j'aurais envie de jouer ça ». Et souvent, c'est le programme et le résultat de cette discussion. Je pense à un garçon extraordinaire qui est Lucas Geniouchas, qui joue en récital le soir.
Oui, qui est un grand récital à 20h.
Qui n'est plus une découverte, mais qui joue à 20h le 18 juillet. Il va proposer des préludes de Desiatnikov. Qui connaît Desiatnikov ? Simplement, lui nous a dit, c'est une musique géniale, j'ai envie de la jouer, j'ai envie de la défendre. Et nous, on a dit oui tout de suite. On n'a pas dit, oh là là, ça va faire peur, etc. Au contraire. Moi, à chaque fois que je vois le public, à la sortie des salles de concert ou des lieux où on emmène les artistes, ça peut être une petite église, etc., disent tous la même chose. Merci, merci, merci de nous avoir fait découvrir cet interprète, de nous avoir fait découvrir ce programme qu'on ne connaissait pas. Donc, pourquoi aller contre l'intérêt et l'attente du public ?
Tout à fait, oui, oui. Non, mais vous citez Gonyoussas, bon, il a enregistré un disque consacré à Prokofiev. Il aurait pu se contenter de jouer en public l'équivalent de son disque. Non, on va découvrir d'autres choses.
Et c'est, encore une fois, la marque du festival. Et c'est comme ça que le festival a du succès depuis 35 ans.
Alors, est-ce qu'il y a... Bon, c'est vous qui vous n'êtes pas seul à construire cette programmation. On entend comment les artistes apportent leur contribution. Est-ce qu'il y a des concerts dans toute cette programmation surabondante, on va dire, qui pour lesquels vous avez une tendresse ou à laquelle vous avez une curiosité, une attente particulière? C'est pas pour dire que les autres sont pas intéressants, mais il y en a peut-être quelques-uns qui vous attirent plus que d'autres.
Alors, je vais vous faire la réponse que je vous faisais sans doute l'an dernier et que je vous ferai l'année prochaine, si vous me réinvitez. Je ne programme que ce que j'ai envie d'entendre. Autrement dit, alors ça, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je pense que c'est comme ça que les choses fonctionnent avec le public. Le respect du public, c'est de donner à entendre ce qu'on a envie de lui faire aimer. S'il n'y a pas un concert, s'il y a un programme qui ne me convainc pas, on ne le prend pas. On ne le fait pas. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous me demandez de choisir dans ces 155 concerts, parce que c'est exactement ce qui, le nombre de concerts qui seront donnés dans toute l'Occitanie, et là-dessus, plus d'une quarantaine à Montpellier, simplement, eh bien, je ne peux pas choisir. Je ne peux pas vous dire ce concert est plus important. Moi, je vais aller écouter, pas les 155 concerts malheureusement, mais en tout cas le plus grand nombre possible, et je vais mettre dans le public, comme le public, en état d'attente, en me disant, vas-y ou allez-y, si c'est un ensemble, un groupe, faites-moi vivre un moment exceptionnel. Et puis peut-être que ça arrivera moins. Mais en tout cas, je n'y vais pas en me disant, oh là là, qu'est-ce que je vais me barber, on l'a programmé parce qu'il fallait le faire. Jamais, jamais de la vie. C'est pas comme ça qu'on travaille. C'est toujours une envie, un désir. Et je peux vous dire qu'il faut souvent, avec les programmateurs, avec Corinne Delafont, avec Pascal Rosa pour le jazz, avec Pascal Morin pour Tout Ubru, il faut souvent se restreindre. Il faut se priver d'envie parce qu'on en a tellement que il faut quand même faire rentrer ça dans un cadre, dans des dates. Mais je peux vous dire qu'on est toujours dans cet état d'esprit-là. Jamais on ne programme quelque chose dont on n'est pas convaincu. Et je pense que c'est parce qu'on fait ça qu'on convainc le public et que le public nous dit, d'ailleurs très bien, vous parliez de Toubine. La 5e symphonie de Toubine dans le concert symphonique d'ouverture le 11 juillet. Avec Némé Yervi, ça c'est quand même le plus grand chef d'orchestre, la star, qui vient avec son orchestre national d'Estonie. Vous savez, c'est un orchestre qui est prestigieux, mais qui ne tourne pas, parce que c'est comme ça, le pays est petit, il n'a pas beaucoup de moyens, et qu'aujourd'hui, les tournées d'orchestre, c'est difficile. Ils viennent spécialement à Montpellier pour l'ouverture du festival. Et quand on a parlé programmation, au début, on nous a proposé des choses plus classiques. Et j'ai dit non, surtout pas. Si je vous invite, vous, Orchestre d'Estonie, vous, Némé Yervi, qui est un immense chef d'orchestre, qui a tellement fait, qui a tellement enregistré, qui a tellement défendu et promu la musique de ces pays baltes et en général ces musiques du Nord, venez et montrez-nous à nous, public, des choses exceptionnelles. Et quand Némé Yervi vous dit... La 5e symphonie d'Edouard Toubine, c'est comme si c'était le Shostakovich, c'est notre Shostakovich estonien. Ok, on a compris. Ça va être un moment exceptionnel. Et même si on ne connaît pas, je pense qu'on va sortir du concert en se disant waouh, quelle découverte.
Quelle découverte, oui. J'ai déjà jeté par curiosité. Je suis allé à la découverte et effectivement, c'est une œuvre assez extraordinaire. Oui. Bon, il y a plein de choses. Moi, j'ai envie d'attirer comme ça l'attention du public moi, sur Rautavaara, qui est un compositeur finlandais qu'on a découvert il y a une quarantaine d'années en France, quand même, déjà, avec son Cantus Arcticus, qui va être donné par un des fils de Némé Yervi, Christian Yervi.
Avec l'Orchestre de Montpellier.
Avec l'Orchestre de Montpellier, ça c'est le 12 juillet, donc voilà. Ne serait-ce que pour cette œuvre étonnante... Je crois que c'est une œuvre qui peut réconcilier plein de gens avec la peur de la musique contemporaine.
mais je ne sais pas, moi. Enfin, tu sais, l'histoire de la musique contemporaine, je pense que d'abord, c'est un mot qu'on doit proscrire, ça ne veut rien dire. Musique contemporaine, c'est des gens de notre temps, oui. Des gens qui écrivent aujourd'hui. Mais est-ce que c'est de la musique contemporaine? Oui, pour les contemporains de Mozart, c'était de la musique contemporaine. Enfin,
oui, toute musique a été à un moment contemporain.
Oui, alors, on sait ce que ça veut dire en réalité. Quand on dit musique contemporaine, les gens disent « Oh là là, c'est Stockhausen Boulez ». Autrement dit, c'est du bruit, c'est incompréhensible, c'est pas consonant. Justement, ces compositeurs-là, la plupart, ils se sont complètement moqués de ces dogmes. Les débats... un peu franco-français, ou en tout cas franco-allemand, parce que tout ça était entre Darmstadt, Paris, Donaueschingen, etc., ça leur est passé complètement au-dessus de la tête. Vous savez, il y a une œuvre très connue, qui a eu un énorme succès, un peu moins maintenant, qui est la troisième symphonie de Gorecki, ce compositeur polonais, qui est mort maintenant. Cette espèce de très, très, très longue œuvre qui dure une heure, c'est quasiment que de la musique planante, avec une voix qui intervient, et une musique, espèce de musique de douleur. Donc une musique totalement à rebours de tout ce qu'on faisait. Et bien, ça a été créé, vous savez où ? À Royan. Dans le festival.
Le fameux festival de musique contemporaine de
Royan. Le plus musique contemporaine qui soit au monde. Et évidemment, ça a été un choc à l'époque, parce qu'on s'est dit, tiens, mais on n'est pas obligé d'écrire comme Stockhausen ou comme Boulez.
Alors qu'un des invités vedettes, c'était Yanis Xenakis, voilà. Qui était régulièrement au festival de Royan à cette époque-là.
Eh bien, ce sont ces compositeurs qu'on veut faire entendre. Moi, je ne dis pas que j'aime tout ce qu'ils font. Il y a un petit côté, parfois, un peu excessivement New Age. On dit maintenant post-minimaliste, je pense que ça veut dire, ou post-moderne. Donc des musiques très consonantes. Et en même temps, c'est des musiques qui vous prennent. J'étais il y a quelques semaines à Tallinn pour un festival de musique contemporaine, auquel d'ailleurs assistait Neeme Järvi lui-même. Il ne se contente pas de diriger, il va écouter ce que font les plus jeunes compositeurs. Et j'ai entendu des choses tout à fait étonnantes, notamment dans le répertoire choral, parce que c'est aussi un des fondements de ces musiques-là. On va pas en entendre beaucoup cette fois-ci, mais on a le chœur de la radio lettonne qui vient très souvent à Montpellier, qui sera là d'ailleurs, mais pour l'opéra Ferval. Ce sont des musiques qui ont l'impression de venir de très loin. Pour moi, elles m'évoquent ces grands espaces, ces espaces un peu infinis. Vous savez, on dit toujours en blaguant la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, tout ça, c'est des lacs, des forêts, des lacs, des forêts, des lacs, des forêts. En effet, c'est des lacs et des forêts. Et puis pourtant, moi j'y suis allé passer des vacances en Finlande, en été, et je me suis dit, je vais faire toute la Carélie, c'est-à-dire toute cette région qui est riveraine de la Russie, du sud au nord. Eh bien, j'ai fait des lacs, des forêts, des lacs, des forêts. Eh bien, j'ai eu ce sentiment que chaque fois, ça changeait. Chaque fois, c'était un nouveau paysage. Et j'ai compris après pourquoi Sibelius, qui habitait dans ce paysage-là, et qui n'est jamais beaucoup sorti de chez lui, et qui disait lui-même que c'était ces paysages qui l'inspiraient. Comment il a trouvé une telle diversité d'inspiration dans son œuvre, simplement en contemplant ce qui était autour de lui. Et c'est ça, moi, que cette musique me fascine. C'est que c'est une musique de grands espaces, c'est une musique de grand air, c'est une musique qui a l'air de venir de très loin, avec des racines, je pense à Arvo Pärt. Hein. Arvo Pärt, sa musique chorale, c'est quelque part pas très loin du grégorien ou du Moyen-Âge.
Tout à fait, oui.
Et puis, il y a quand même cette espèce de touche de modernité, cette espèce d'éclairage, ces dissonances qui vous prennent un peu par surprise. C'est des musiques fascinantes. Voilà. C'est le mot peut-être que j'ai envie de dire. Et par exemple, le 12 juillet, il y a ce programme avec Christian Järvi. Si on ne connaît aucun des noms qui sont inscrits au programme à part Stravinsky, il faut surtout venir parce que je pense qu'on va vivre un événement assez exceptionnel parce que de musique de transe, de musique de grands espaces, de musique de réflexive, de musique de l'âme, si on veut employer un peu les grands mots.
Avec y compris une création de Christian Järvi, oui. Par Christian Järvi.
Oui, exactement.
Il a joué une de ses œuvres. Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre Rousseau. J'espère, je suis convaincu que vous avez donné envie à nos auditeurs d'être curieux et d'être prêt à faire le voyage. Parce que c'est de magnifiques voyages musicaux que vous nous proposez.
La musique n'a jamais fait de mal.
Ça se saurait.
Je pense que la musique, au contraire, fait du bien. Alors, moi, ce que j'incite, c'est même ceux qui se disent « Oh là là, la musique classique, etc. » D'abord, avant d'en parler, venez écouter. Si ça ne vous plaît pas, après, vous saurez pourquoi ça ne vous plaît pas. Mais on ne peut pas dire avant « ça ne me plaît pas » ou « ça ne me parle pas ». Il faut venir s'immerger dans un bain de musique. Il y a quand même quelques chances qu'on en ressorte, je ne sais pas, plus heureux, plus cultivé, plus en phase avec son temps. Voilà, la musique, ça fait du bien.
Ça fait du bien, ça nous fait du bien. On compte bien que ça vous fasse du bien à vous aussi, chers auditeurs. Et voilà, vous avez envie d'y aller. Mais si vous n'arrivez pas à aller à tous les concerts, nous, on essaiera d'aller à beaucoup, beaucoup de concerts et de vous en parler très régulièrement pendant toute la durée du festival. de ce que nous avons entendu, de ce qu'il y aura à aller écouter, de ce que vous avez raté. Ça arrive qu'on rate. Voilà. Donc, rendez-vous à partir du 10 juillet. Et c'est jusqu'au 26. C'est encore mieux qu'à Nantes avec les folles journées. Là, c'est la folle quinzaine de Montpellier et de l'Occitanie autour de la musique. Merci Jean-Pierre Rousseau.
Merci.
Et ben on va finir avec un petit peu de musique. Par exemple, avec cette cinquième symphonie d'Edouard Tubin que vous évoquiez. Et c'est Neeme Järvi qui dirige.
Thank you.